On peut argumenter et dire que puisqu'ils avaient des démons, ils n'étaient pas des chrétiens véritables. Eh bien, nous avons pensé et nous pensons qu'ils étaient des chrétiens. Qu'une personne ait un démon ou non, et quelle que soit sa confession et son engagement, nous reconnaissons que seul le Seigneur connaît finalement si cette personne lui appartient vraiment. La parole de Dieu dit le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité de Timothée 2, 19. Ces nombreux chrétiens, et en réalité la plupart des chrétiens qui ne se sont pas éloignés de l'iniquité, peuvent très bien ne pas appartenir au Seigneur? Appartiens-tu au Seigneur? T'es-tu éloigné de toute iniquité dans ta vie? Si tu pratiques encore le péché, c'est une indication que tu es peut-être un faux chrétien. Tu es en danger d'être envahi par les démons et de devenir leur habitation. L'attaque de l'âme des chrétiens par les démons. Les démons concentrent leurs attaques sur l'âme et sur le corps des chrétiens. Dans l'attaque de l'âme, les trois composantes de l'âme sont attaquées, tout comme chez un non-chrétien. Ils attaquent la volonté du chrétien, la rendant soit tellement faible que ce dernier ne pourra maintenir aucune des décisions qu'il aura prises, soit tellement forte et entêtée qu'il continuera à suivre le chemin qu'il a choisi, même s'il se trompe. La volonté libérée du chrétien n'est ni forte ni faible. Elle est malléable. Elle peut être très forte ou très douce selon le besoin. Elle est malléable entre les mains de l'esprit. Une volonté forte n'est pas nécessairement une bénédiction. Elle peut même être une grande malédiction. Une personne ayant une volonté forte peut accomplir tout ce qu'elle a décidé de faire, mais ses réalisations peuvent ne pas être selon les volontés de Dieu. Les démons peuvent attaquer la volonté en la déformant et en la rendant trop forte ou trop faible. Dans un cas comme dans l'autre, la volonté n'est pas en harmonie avec la personnalité générale de la personne. Une volonté forte, attaquée par des démons, peut décider de faire aboutir une résolution totalement hors de proportion avec tout ce qui aurait dû être fait. Les démons attaquent aussi la volonté pour la rendre tellement faible que la personne est capable de changer d'avis 100 fois au sujet de la même chose. Elle dira par exemple « Je ferai ceci. Tu peux compter sur moi. » Dès que vous l'avez quitté, si une autre personne lui fait une suggestion différente, la décision initiale est jetée à la poubelle et c'est maintenant la deuxième suggestion qui est prise en considération. Il est important que les chrétiens sachent qu'il s'agit là d'une attaque de démons et qu'ils ont besoin d'être secourus. Ils ne sont pas nécessairement habités par les démons responsables de cette situation, car les démons peuvent très bien agir sans avoir pris résidence dans la volonté de la personne. Ce qui est fait à la volonté peut aussi être fait de la même manière, aux pensées et aux émotions. Ainsi, les trois domaines de l'âme peuvent être attaqués. La violence de l'attaque et l'importance de la victoire remportée par les démons dépendent de la personne à qui ils ont affaire. Si la personne se tient sur ses positions et résiste aux démons, ils s'en iront. Si elle les laisse faire, ils agiront. La séduction des chrétiens par les démons. Les démons attaquent la parole de Dieu et trompent ainsi les chrétiens. Ils le font de quatre manières. En affaiblissant l'autorité des Écritures. Il y a un nombre incalculable de démons qui s'acharnent à dire aux chrétiens que la Bible n'est pas tout à fait digne de confiance, qu'il ne faut pas la prendre telle qu'elle, mais qu'il faut plutôt la considérer avec prudence. 2. En déformant l'enseignement des Écritures. Les démons attaquent certaines personnes à tel point qu'elles disent bien que ce soit écrit de cette manière, ce n'est pas cela que l'auteur a voulu dire. Il voulait dire autre chose. De telles personnes lisent la parole et la déforment sans savoir qu'elles sont en train de la déformer. Elles peuvent être très sincères, mais elles déforment sincèrement la parole de Dieu sans le savoir. Leurs pensées sont attaquées et elles suivent les pensées de leur cœur. 3. En ajoutant les pensées des hommes aux Écritures. À cause des démons, les pensées des hommes ont été ajoutées aux Écritures par des nombreuses personnes. Elles ont ainsi ajouté les pensées des hommes aux pensées de Dieu. Ceci se produit quotidiennement dans les cercles religieux, même chrétiens. Beaucoup de ceux qui font de telles choses réalisent à peine qu'ils agissent sous l'ordre des démons. 4. En mettant totalement de côté la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont mis totalement de côté ce que dit la parole de Dieu sur certaines choses. Par exemple, la parole de Dieu dit que les chrétiens doivent d'abord recevoir l'onction indispensable d'en haut avant d'aller proclamer Christ. Beaucoup de gens ont complètement mis cela de côté. Ils sont partis sans onction et ont mis du désordre dans l'œuvre de Dieu en proclamant un message qu'ils n'étaient pas qualifiés à proclamer. Le résultat obtenu dans de nombreux endroits a fait que les gens se sont endurcis vis-à-vis de l'évangile de Dieu. Les démons trompent aussi les chrétiens en attaquant leurs pensées. 1. Ils font des suggestions à la pensée. Par exemple, une idée soudaine peut traverser votre pensée et vous faire croire qu'elle vient du Seigneur. On peut soudain recevoir un passage biblique envoyé par les démons dans la pensée et le considérer comme une parole de direction de la part de l'Éternel. Toutes ces choses ne sont rien d'autre que des manifestations de l'activité des démons. 2. Les démons peuvent aussi produire des visions, des voix et des rêves spéciaux. Beaucoup de chrétiens disent « Le Seigneur m'a dit dans une vision de faire telle ou telle chose ». Un autre dira « Lorsque je priais, j'ai entendu une voix me disant ». Un autre encore dira « J'ai rêvé que le Seigneur me demandait d'arrêter mon commerce et de devenir évangéliste ». Dans mon rêve, je me suis vu en train de prêcher à une grande foule. Ce doit être le Seigneur qui m'appelle à un ministère à plein temps. Ces choses peuvent réellement venir du Seigneur ? Elles peuvent aussi résulter de l'activité des démons. Elles peuvent être leurs mensonges. Le fait d'entendre une voix au cours de la prière ne signifie pas que ce soit automatiquement la voix de Dieu. L'ennemi est un trompeur. Il sait qu'en parlant pendant la prière, il y a plus de chances qu'on lui obéisse, puisqu'on confondra sa voix avec celle de Dieu. Ainsi, il réussit à tromper de nombreux chrétiens. Le fait de rêver qu'on est devenu un prédicateur à plein temps ne signifie pas que le rêve provienne nécessairement de Dieu. Le diable peut paraître comme un ange de lumière. Si la volonté de Dieu pour toi est de travailler dans une entreprise et que le diable réussisse à te faire devenir évangéliste, il aura gagné la bataille. Dieu n'est concerné que par sa volonté. Il n'est pas intéressé par des évangélistes désignés par des démons. De tels évangélistes peuvent apparemment avoir du succès, mais, en dernière analyse, ils ruinent l'œuvre de Dieu. Seule une œuvre conçue, lancée et accomplie par Dieu a de la valeur pour lui. Seuls des ouvriers appelés, mis à part et envoyés dans la moisson par le Seigneur feront son œuvre. Tous ceux qui sont envoyés par eux-mêmes servent le diable. Leur service est le résultat d'une activité démoniaque. Vous pouvez réellement entendre une voix vous dire ainsi parle le Seigneur ? Tous ceux qui entendent une telle voix ne se sont pas nécessairement trompés. Il se peut très bien qu'ils aient bien entendu. Il faut cependant se poser la question suivante, est-ce vraiment le Seigneur qui parle, ou bien est-ce un démon qui a décidé d'utiliser le nom du Seigneur ? Ne pas admettre que les démons puissent parler en se cachant derrière le nom de Dieu, c'est commettre une grande folie. Les démons trompent aussi les chrétiens en attaquant leurs émotions. Les démons peuvent contrefaire la présence de Dieu et l'imiter sous la forme d'une influence ou d'une sensation. Prenez par exemple le désir de nombreuses personnes de sentir le Seigneur. Ils passent des heures, des jours, des semaines et quelquefois des mois en recherchant des sensations et des expériences émotionnelles. Ils disent « Je n'ai pas senti la présence de Dieu, le Seigneur n'était pas à cette réunion » ou encore « Je sentais le Seigneur si proche ». Le problème n'est pas celui d'avoir senti le Seigneur très près d'eux, mais celui d'avoir fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Nulle part dans la Bible on encourage les gens à rechercher des expériences émotionnelles. Lorsqu'on se résout à rechercher des expériences émotionnelles, on se fait attaquer par des démons qui produisent des émotions en soi. Certains disent « J'ai senti le Seigneur si proche ». Mais bientôt cette sensation disparaît et ils ne sont pas plus près du Seigneur ? Parfois cela leur donne d'être déçus et découragés. Dans cette condition de déception et de découragement, l'ennemi peut leur faire subir de grands dommages. De véritables sensations peuvent provenir du Seigneur, mais elles se produisent chez des gens qui cherchent le Seigneur et non chez ceux qui cherchent des sensations. Certains chrétiens essayent de produire des sensations d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent dire « gloire à Dieu » un très grand nombre de fois et s'efforcer de cette façon de produire des sensations. En recevant le ministère d'imposition des mains, pour le baptême dans le Saint-Esprit, certains respirent très profondément, tremblent ou hurlent. Toutes ces choses sont des activités de la chair. C'est tenter de produire par la chair ce qui ne peut être produit que par le Saint-Esprit. De telles actions ouvrent la porte à l'attaque des démons. Un jour, J'ai rencontré un frère qui se disait être baptisé dans le Saint-Esprit. Mon esprit était très mal à l'aise en ma présence. Je lui demandai comment il avait été baptisé dans le Saint-Esprit et il me dit qu'au cours d'une réunion, on lui avait demandé de dire gloire à Dieu 1000 fois aussi rapidement que possible. Après avoir commencé à dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, quelque part en chemin il se rendit compte qu'il était en train de parler en d'autres langues. Oui, il parlait vraiment en d'autres langues, mais ce n'était pas une langue qui lui avait été donnée par le Saint-Esprit. C'était une langue donnée par des démons pendant qu'il essayait d'utiliser des méthodes charnelles pour acquérir ce que seul le Saint-Esprit donne. En essayant de mettre sa pensée de côté avec ses gloires à Dieu, il avait ouvert la porte démons. Ces derniers avaient pris le relais et avaient agi rapidement. Des chrétiens véritables, fidèles et honnêtes peuvent être trompés par Satan et ses démons. D'abord, lorsqu'une personne se détourne de ses péchés et reçoit le Seigneur Jésus, elle devient un enfant de Dieu. Elle n'est cependant qu'un bébé spirituel et ne possède pas encore une pleine connaissance ni de Dieu, ni de lui-même, ni du diable. Dans tous ces domaines, il y a de l'ignorance, et là où il y a de l'ignorance, il est possible d'être trompé. Un chrétien sincère peut donc être trompé. Deuxièmement, la séduction passe par nos pensées. Cela veut dire qu'on admet une pensée fausse dans notre pensée en croyant qu'elle est vraie. Le fait de se tromper vient de l'ignorance et non de nos dispositions morales. Cela signifie qu'un chrétien sincère, fidèle au Seigneur, selon le degré de connaissance qu'il a reçu, est encore susceptible d'être trompé dans les domaines où il est ignorant. Durant le réveil est-africain, certains chrétiens ignorants furent amenés à croire que puisque les vêtements étaient venus après la chute, si une personne était vraiment sauvée, elle n'était plus dans l'obligation de porter des vêtements. Ainsi, un dimanche matin, 7 chrétiens ainsi séduits, 4 hommes et 3 femmes, se présentèrent à l'église, aussi nus qu'au jour de leur naissance. Ce fut un choc et un scandale pour beaucoup, et il en résulta que beaucoup endurcirent leur cœur à l'évangile. Certains autres chrétiens ont pu dire qu'ils avaient crucifié le vieil homme, qu'ils étaient totalement libres du péché et qu'ils ne pouvaient donc plus être tentés par le péché. Pour prouver qu'ils ne pouvaient plus être touchés par le péché, ils ont pu dire que des frères et sœurs dans le Seigneur pouvaient coucher dans le même lit qu'eux, puisque le vieil homme était totalement crucifié, rien ne se produirait. Ils couchèrent effectivement les uns avec les autres et, pour la honte du nom glorieux de Dieu, des choses honteuses se produisirent. Ils étaient sincères, mais ignorants, et c'est ainsi que les démons les trompèrent. Troisièmement, penser que Dieu empêcherait les chrétiens d'être trompés est un mensonge. En fait, c'est un mensonge du diable, parce qu'il pousse la personne à ne pas prendre de précautions et à ignorer le fait que pour être pleinement protégé par le Seigneur, il y a des conditions à remplir. Si une protection absolue était automatique de la part du Seigneur, aucun chrétien ne serait trompé, ni ne pécherait, ni ne serait attaqué par des maladies. Dieu ne fera rien à la place de l'homme, mais il fera beaucoup en coopération avec l'homme. Lorsque quelqu'un dit « je ne vais pas penser », Dieu pensera pour moi, il s'ouvre à des démons séducteurs, car Dieu n'a promis nulle part de penser à notre place. La parole de Dieu dit que vous ensemble, Matthieu 18, 12. Que pensez-vous du Christ? De qui a-t-il fils? Matthieu 22, 42, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi, que Dieu a départi à chacun Romains 12, 3. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées Philippiens 4, 8. La même chose s'applique à la volonté. Dieu n'a promis nulle part d'exercer sa volonté à notre place. Si quelqu'un refuse de vouloir et dit que le Seigneur voudra pour elle, il s'ouvre aux démons. Chaque chrétien a la responsabilité de penser et de vouloir. Dieu ne choisira pas pour toi? Tu dois choisir toi-même. Tu dois trouver quelle est la volonté de Dieu. C'est un processus actif? Puis tu dois choisir cette volonté de façon délibérée et consciente et ainsi faire de sa volonté la tienne. Si un chrétien refuse la responsabilité d'accomplir ses fonctions légitimes de l'âme humaine et les abandonne au Seigneur, Dieu n'y fera rien, ce seront plutôt les démons qui prendront le relais et qui commenceront à prendre des décisions pour lui. Dieu n'a pas promis qu'il suppléerait à l'ignorance, que le chrétien aurait au sujet de Dieu, de lui-même, de l'ennemi, du monde, etc. Dieu n'a jamais promis qu'il serait à l'origine de tous les rêves des chrétiens. Dieu n'a promis nulle part que tout passage biblique qui viendrait soudainement dans la pensée du chrétien serait inspiré par lui. Ceux qui étudient la parole de façon approfondie et systématique sont moins enclins à être trompés que ceux qui attendent des révélations soudaines de passages bibliques pour les guider. Le fait que des enfants de Dieu sincères, consacrés à donner à la prière, mais ignorants, puissent être trompés est confirmé par les témoignages suivants. 1. À Yaoundé, au Cameroun, une importante personnalité nationale venait de mourir. Une chrétienne d'environ 45 ans, bien éduquée, haut placée dans la société et qui était croyante depuis l'âge de 18 ans, entendit une voix lui demandant, au nom du Seigneur, de se rendre à la tombe où le mort avait été enterré et de prier avec une autre chrétienne de 32 ans, qui était croyante depuis 12 ans, afin que le mort ressuscite. Elles se rendirent à la tombe et prièrent, mais rien ne se produisit. Elles avaient entendu des voix de démons et obéi à leurs mensonges et non au Seigneur. 2. Il y a de cela 14 ans, l'auteur de ce livre, alors qu'il était étudiant en doctorat de chimie, était en train de prier avec un autre frère, peu après qu'ils eurent été baptisés dans le Saint-Esprit. À la suite de ce baptême, ils avaient conduit au salut de nombreuses personnes. L'auteur, qui était le plus âgé des deux et le plus mûr spirituellement, entendit une voix qui disait « Soyez attentifs, le Seigneur veut vous parler ». L'autre chrétien se munit d'un crayon et d'un cahier et commença à noter les instructions détaillées qui étaient supposées venir du Seigneur. La voix nous commanda de nous rendre auprès d'un frère qui était paralytique. Nous devions le trouver assis à un endroit particulier dans sa chambre. Cela devait se passer à 17 heures et nous devions lui commander d'être guéri au nom de l'Éternel et il serait guéri. Nous eûmes beaucoup de joie à cause de la grande bonté de Dieu à notre égard et nous priâmes avec joie tout le reste de la nuit. Le jour suivant, nous attendîmes anxieusement l'heure. À 16 heures, nous nous rencontrâmes pour prier. À 17 heures précises, nous étions chez le frère concerné. Il n'était pas à l'endroit où l'on nous avait dit qu'il devrait se trouver. Il n'était pas du tout dans sa chambre. Si nous avions eu plus de connaissances, nous aurions su que nous avions été trompés puisqu'il n'était pas à l'endroit où, selon la voix, il était supposé être. Nous allâmes le chercher mais en vain. Plus tard, il revint chez lui et nous lui rapportâmes la bonne nouvelle. Nous demandâmes à son partenaire de chambre, qui était un non-chrétien, de sortir, lui disant qu'à son retour, il trouverait son camarade parfaitement guéri. Nous demandâmes alors à notre frère de s'asseoir à l'endroit indiqué et dans la position où nous étions supposés le trouver. Puis nous prononçâmes une parole d'autorité, comme il nous l'avait été commandé. Rien ne se produisit. Nous la prononçâmes à nouveau, mais, là encore, rien ne se produisit. Nous demandâmes à notre frère de mettre sa foi en action, nous lui imposâmes les mains et priâmes jusqu'à épuisement total, mais rien n'arriva. Nous saisîmes alors ses jambes malades et les tirâmes en commandant la guérison au nom de Jésus, mais rien ne se produisit. 3 heures plus tard, après avoir manqué le dîner spécial qui était offert ce jour-là, avec beaucoup de poulet, nous étions totalement épuisés, découragés et frustrés. Nous ne comprenions pas en quoi nous avions commis une erreur. Plus tard, je compris. Nous avions entendu la voix des démons et leur avions obéi, et puisque les démons ne peuvent que tromper, ils nous avaient laissés dans cette situation, apportant ainsi un grand déshonneur au nom du Seigneur. Nous étions tous les deux baptisés dans le Saint-Esprit. Nous ne pratiquions aucun péché conscient. Nous étions des témoins féconds et profondément consacrés à la prière. En réalité, la voix avait été entendue durant la prière, et pourtant c'était la voix des démons. Nous étions alors ignorants du fait que les démons pouvaient parler au nom de l'Éternel. À cause de notre ignorance, notre spiritualité évidente ne nous empêcha pas d'être trompés par l'ennemi. À partir de ces exemples et de beaucoup d'autres vécus par des chrétiens sincères, nous insistons sur le fait que, pour ne pas être trompés par les paroles de démons mensongers, les chrétiens doivent éprouver toute pensée, toute vision, tout rêve, toute révélation, toute voix, etc., en considérant un. Leur harmonie avec la parole de Dieu dans toute sa vérité, et non pas seulement dans une petite partie de cette vérité. Ceci rend obligatoire, pour tous les chrétiens, la connaissance de toute la vérité révélée. 2. Leur attitude vis-à-vis de la croix et du péché. Il y a des gens qui proclament avoir reçu du Saint-Esprit le don des langues. Cependant, ils confessent qu'ils adorent à présent beaucoup mieux la Vierge Marie en d'autres langues. Leurs langues doivent leur origine à l'ennemi. Le Saint-Esprit ne peut pas donner le parler en d'autres langues à quelqu'un pour adorer un être humain. Un véritable parler en langue provenant de Dieu n'apportera l'adoration et l'honneur qu'au Seigneur et à lui seul. Le dessein ultime du diable, qui œuvre au travers des démons et de ses autres agents, est de cacher, de déformer, de mal utiliser ou de mettre de côté la révélation de Dieu concernant la croix du calvaire, où Satan fut anéanti par Jésus, et où la liberté fut obtenue pour tous les captifs. Tout ce que nous avons dit au sujet de la séduction des chrétiens par les démons peut se produire sans que ces derniers résident dans le chrétien. Ils injectent leurs idées aux chrétiens à partir de l'extérieur. Tous les chrétiens devraient noter que les voix peuvent avoir trois origines possibles. 1. Le Seigneur, le Saint-Esprit, 2. L'esprit humain ou l'âme, c'est-à-dire le moi, 3. Les esprits méchants ou les démons. Toutes les fois qu'on entend une voix ou qu'on a un rêve ou une vision, on doit vérifier son origine. S'ils proviennent du Saint-Esprit, il faut obéir. S'ils proviennent du moi, des mauvais esprits ou des démons, il faut les rejeter. Les chrétiens doivent marcher tout près de l'Éternel et éprouver toutes choses. Ils doivent connaître la parole et marcher selon elle. Ils ne doivent pas croire n'importe quoi. Ils doivent consulter les frères les plus mûrs avant de s'engager dans de nouvelles directions. L'oppression causée par les démons. Non seulement les démons trompent, mais ils oppressent aussi, sans avoir besoin d'habiter à l'intérieur du chrétien. Les démons peuvent oppresser sous forme de cauchemars. La nuit, on a des rêves effrayants et on se réveille agité. On rêve par exemple qu'on est poursuivi par un animal sauvage ou par un serpent. Le but de tout cela est de provoquer l'agitation. On se réveille alors brisé et fatigué et le sommeil n'a pas pu produire son effet. Les démons peuvent aussi oppresser le chrétien en le rendant inquiet sans raison. Ils peuvent pousser le chrétien à sentir que quelque chose va mal tourner juste pour le plonger dans l'agitation. Les démons peuvent opprimer le chrétien en attaquant ses finances, ses biens matériels, son temps, sa carrière, ses connaissances, sa femme, son mari, ses enfants, ses parents, etc. Pour ne nommer que ces quelques domaines. Le but de ces attaques est de distraire le chrétien de son activité principale, qui est de servir le Seigneur et de marcher avec lui, pour le tourner vers les choses secondaires qui sont citées ci-dessus. Le chrétien peut par exemple voir que les démons se sont arrangés pour que quelqu'un tamponne sa voiture au moment même où il partait pour aller prêcher l'évangile. Ils peuvent provoquer des pannes d'avion lorsqu'il y a un vol important en vue. Le but ultime de tout cela est de causer du retard et de créer de l'inquiétude dans l'esprit. Les démons s'efforcent de provoquer des divisions parmi les chrétiens. Ils font que certains chrétiens se fixent sur certains points doctrinaux secondaires en mettant de côté les enseignements essentiels de la Bible. En se concentrant sur des choses secondaires, les chrétiens finissent par se séparer des autres pour demeurer seuls, ouvrant ainsi la porte à davantage d'attaques destructives de la part des démons. La politique du diable est divisée pour régner. Lorsque deux chrétiens ont une mésentente sur un point secondaire, le diable fera en sorte que chacun des deux pense que c'est la faute de l'autre. Les démons œuvrent à travers la chair, non crucifiée des chrétiens, pour faire en sorte que chacun voit la faute de l'autre, tout en étant complètement aveugle à la sienne. Les démons font croire aux chrétiens que la solution de leurs problèmes viendra lorsque l'autre personne aura changé. Tout ceci fait partie de leur guerre d'oppression. Les démons font tout pour essayer de détruire les foyers chrétiens, plus spécialement les foyers des dirigeants chrétiens. Il y a de cela quelques années, un certain nombre de satanistes de l'Afrique du Sud jeûnèrent chacun pendant 40 jours. Ils demandèrent une seule chose à leur père le diable, détruire les foyers des dirigeants chrétiens. Il semble que des milliers et des milliers de démons aient été libérés par Lucifer contre les foyers des dirigeants chrétiens en réponse à ce jeûne et à cette prière spéciale. Je ne citerai que trois exemples. 1. Il y a quelques années, je tenais de grandes réunions d'évangélisation dans un pays dont je préfère taire le nom. Un soir, après une réunion durant laquelle la puissance du Seigneur s'était manifestée de façon spéciale, je continuais à conseiller jusqu'à une heure tardive dans la nuit. Aux environs de minuit, une dame respectable entra et commença à me parler. Elle me raconta comment son foyer allait mal, ainsi que tous les mauvais traitements que son mari lui avait fait subir durant toutes ces années. Ce qu'elle me disait dépeignait l'image d'un homme très méchant. Alors je lui suggérais qu'il me fallait rencontrer son mari pour lui rendre témoignage afin qu'il y ait quelque espoir. Elle termina en me disant qu'elle avait déjà à plusieurs reprises pensé au suicide. Lorsque je lui demandai le nom de son mari, elle fut surprise. Elle ne savait pas que je ne le connaissais pas. Elle me donna son nom et je reçus un choc qui me fit presque m'écrouler. C'était le principal homme de Dieu de cette ville, le président d'une dénomination pentecôtiste florissante, l'organisateur principal des réunions dans lesquelles j'étais l'orateur. Après être revenu de ma surprise, je lui dis « Sœur, c'est une attaque des démons, il n'y a pas d'autres explications ». Puis je priais et demandais à tous les démons qui avaient été lâchés contre cette famille de s'en aller immédiatement. Je plaidais que le sang du Seigneur puisse protéger leur foyer à partir de cet instant. Les démons étaient à l'œuvre, mais Jésus est la réponse. 2. Cette semaine j'ai reçu deux lettres, l'une en provenance d'un homme de Dieu et la seconde d'une femme de Dieu. La première lettre était « Ainsi écrite mon bien-aimé frère Zach, c'est avec des larmes aux yeux que je t'écris cette lettre. » Depuis l'an passé, ma femme et moi vivons dans un conflit constant. C'est comme s'il nous était absolument impossible de vivre en paix, ne serait-ce qu'un seul jour. Nous ne pouvons nous entendre sur quoi que ce soit. Nous ne faisons d'ailleurs rien en commun. Nous sommes en réalité devenus des étrangers l'un pour l'autre. Nous ne pouvons ni prier, ni lire la Bible ensemble. Je n'ose pas parler de notre vie sexuelle. Cela fait déjà plusieurs mois que nous ne sommes pas allés l'un vers l'autre. Ma femme est vraiment dans un triste état. En fait, il n'est pas faux de dire que notre mariage a pris fin depuis longtemps. J'ai perdu la place que j'occupais dans son cœur et elle a perdu celle qu'elle occupait dans le mien. Toutes ces choses sont un désastre pour l'Église et pour l'œuvre. Je suis paralysée. Qui roulera la pierre? Mon frère bien-aimé, je regrette d'avoir à te briser le cœur avec une telle lettre. Depuis longtemps, j'essaye d'éviter cela, mais j'ai pensé que tu pouvais nous aider. Merci pour tes prières. Lorsque je lus cette lettre, j'éclatai aussitôt en sanglots. Ce couple aimait le Seigneur plus que tout autre couple que je connaisse ou que ce soit dans le monde de Dieu. Mais hélas, je réalisais immédiatement que c'était une attaque de démons. Je m'arrêtai de pleurer pour m'engager dans une intercession vigoureuse avec des paroles intelligibles, puis avec des paroles inconnues, puis sans paroles. Je parlais, au nom de Jésus, aux démons qui avaient été envoyés vers cette famille et je leur commandais de s'en aller. Je séparais ces démons les uns des autres, puis de Satan, et je semais de cette façon la confusion, parmi eux en détruisant toute communication entre eux. Puis je demandais à chacun d'eux de s'en aller au nom du Seigneur Jésus. Ce fut une bataille rude et j'en ressentis le poids dans mon âme et dans mon corps. Je continuai pendant près d'une heure et le fardeau me quitta. Je crois que la bataille est gagnée et que bientôt je recevrai une autre lettre pour me dire que les choses ont changé de façon radicale. Je suis persuadée qu'ils ne pourront pas me dire ce qui s'est passé. Ils se rendront juste compte que les nuages se sont dissipés, que le Saint-Esprit a roulé la pierre. C'est cela le combat contre les démons, mais c'est aussi cela la victoire au nom du Seigneur Jésus. J'ai aussi placé ce couple et ce foyer sous le précieux sang du Seigneur? Les choses iront mieux à partir de maintenant. 3. Je ne sens pas la liberté de partager la seconde lettre avec vous? Je vais par conséquent simplement continuer. Les démons oppriment aussi les chrétiens en faisant circuler toutes sortes de mensonges et de commérages qui blessent l'esprit et disloquent le travail spirituel. La plupart des commérages sont le fait des personnes attaquées par les démons. En dehors des commérages, il y a beaucoup de menteurs dans l'Église. Ils savent que les menteurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu, mais ils ne peuvent s'empêcher de mentir. Parce que nous sommes dans un combat, les démons cherchent toujours une occasion d'attaquer. Quel est le meilleur moyen pour éviter d'être attaqué? Je crois qu'il n'y a qu'un endroit où la puissance des démons est réduite à néant. Cet endroit, c'est le sang du Seigneur Jésus. Ceux qui se réfugient sous le sang de Jésus et qui gardent tout leur bien-aimé sous le sang de Jésus, ainsi que tout ce qui leur appartient, verront que les efforts déployés par les démons pour les attaquer seront voués à l'échec. Cela ne sert à rien de prier d'une manière générale. Les prières générales ne sont pas aussi efficaces que les prières très précises. J'apprends à tout placer chaque jour sous le sang de Jésus tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que je veux faire. Chaque matin, je prie de la manière suivante, Seigneur Jésus, je place tout cela sous ton sang, hors de portée des démons envoyés pour les attaquer, ma volonté, mes pensées, mes émotions, mon intelligence, mon corps, ma santé, mon apparence extérieure, mes projets, mes ambitions, mon humeur, mon travail, ma femme, sa santé, son travail, son humeur, ses relations avec toi et avec les autres, chacun de mes enfants, en les nommant individuellement, notre voiture, notre maison et tous nos biens, l'assemblée de Yaoundé, ainsi que les fonds de l'assemblée, les anciens, les diacres et diaconesses, les ministères d'enseignement, d'évangélisation et de prière de l'assemblée, les autres assemblées qui participent à mon ministère, ainsi que leurs conducteurs et tous leurs membres, notre ministère au Tchad, mes proches collaborateurs et leurs autres amis et collaborateurs, le ministère des traités, livres, cassettes, les bâtiments, mon ministère d'évangélisation et par les livres, mon rôle en tant que mari, mon rôle en tant que père, mon rôle en tant que professeur d'université, mon rôle en tant que fondateur d'église, mon rôle en tant que conducteur spirituel et enseignant de la parole de Dieu, etc. Je place tout cela sous le sang du Seigneur et je crois que toute tentative faite en ce jour par les démons pour les détruire sera sans effet. De cette manière, je suis libéré de l'oppression des démons. Je sens parfois dans mon esprit que des démons sont sur le point d'attaquer une personne ou un certain lieu. Je construis alors un mur de protection autour de cette personne ou de ce lieu en l'entourant du sang de Jésus d'une manière très détaillée. Je couvre chaque détail de la vie de cette personne ou de ce lieu par le sang de Jésus. Je peux de cette manière protéger des chrétiens et tous les aspects de l'œuvre de Dieu, qu'ils soient proches ou lointains. L'habitation d'un chrétien par un démon. Nous avons vu que les démons pouvaient tromper et opprimer les chrétiens. Nous voulons maintenant aborder la question des démons habitants à l'intérieur des chrétiens. Avant de continuer, je voudrais dire très clairement que tous les esprits méchants et tous les démons ont été vaincus par le Seigneur Jésus à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, 15. À cause du triomphe de Christ sur la croix, les mauvais esprits et les démons ne possèdent aucun droit légal de rester à l'intérieur de celui qui appartient à Christ. Les démons connaissent ce fait, mais ne veulent tout simplement pas s'en aller. Ils resteront aussi longtemps qu'il leur sera possible de rester. Si on les force à sortir, ils s'en iront. Une personne qui a un ou plusieurs démons n'est pas automatiquement délivrée à l'instant où elle reçoit le Seigneur Jésus. La puissance pour être délivrée est bien disponible, mais le démon qui était en cette personne avant sa conversion continue à rester après la conversion jusqu'à ce que quelqu'un utilise la puissance de l'Éternel pour le chasser. Dans le ministère de délivrance de Jésus, nous remarquons que les démons ne criaient pas et ne s'en allaient pas automatiquement dès qu'il était en présence de la personne qui avait les démons. Dans chaque cas, il devait commander au démon de sortir de la personne. Lorsqu'il le faisait, le démon s'en allait automatiquement. De nos jours, lorsque quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus, peu de gens se préoccupent de le délivrer de tout démon qu'il pourrait avoir. Il est simplement conduit dans une prière de repentance et d'engagement à suivre Christ. Que devient tout démon qui peut être dans la personne avant cette date? Ce démon continue à rester dans la personne, bien que le Saint-Esprit ait pris résidence dans l'esprit humain de cette personne et lui ait donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Considérez le problème d'une autre manière. Si une personne ayant un démon de cécité se repent et croit au Seigneur Jésus, sa cécité sera-t-elle automatiquement guérie? Non. Une cécité qui est le résultat de la présence de démons restera jusqu'à ce que les démons aient été chassés. Alors la cécité disparaîtra immédiatement. Il est possible de se poser la question suivante, comment le Saint-Esprit peut-il demeurer dans une personne qui a un démon de cécité? La réponse est que la cécité causée par un démon n'empêche pas le Saint-Esprit de venir dans cette personne. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter directement dans le corps, ni dans l'âme, mais dans l'esprit. Il peut demeurer dans l'esprit d'une personne, bien qu'un démon contrôle les yeux de cette personne. On peut aussi se poser la question suivante, comment le Saint-Esprit Peut-il venir et demeurer dans une personne malade? Nous savons que la maladie est l'œuvre du diable et que le Fils de Dieu a pris toutes nos maladies sur lui dans ses souffrances. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Bien que cette œuvre ait déjà été accomplie, nous devons nous rendre à l'évidence qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades avant leur conversion et qui restent malades après leur conversion. Pour ce qui concerne la maladie, Jésus-Christ est la santé parfaite. Pourtant, il vit dans un chrétien dont le corps est brisé et écrasé de maladies. N'est-il pas anormal que la santé parfaite vive dans un corps malade et brisé? C'est anormal, mais c'est réel? Cela continuera à être anormal, mais réel, jusqu'à ce que l'Église jouisse pleinement de son droit à la santé parfaite, ou bien jusqu'à ce que le corps du chrétien soit transformé au moment du retour du Seigneur? Lorsque cela se produira, cette situation anormale disparaîtra, où nous voyons le Seigneur habiter dans des corps malades, bien qu'il soit la santé parfaite. De façon similaire, l'Église doit se réveiller et saisir toutes les possibilités et les potentialités du ministère de délivrance et chasser tous les démons que les gens possédaient avant de venir au Seigneur. Une personne peut avoir la vie, mais être dans la situation de Lazare lorsqu'il sortit de la tombe. Lazare était lié et il a fallu que des frères le délient. Le Seigneur Jésus rendit la vie à Lazare, mais il ne le délivra pas. Il laissa aux disciples le soin de le délier. De même, de nos jours, certains reçoivent la vie, mais sont liés par des bandelettes mortuaires. Il est de la responsabilité de l'Église de les délier. Es-tu encore troublé par le fait que les chrétiens puissent avoir des démons? Considérons le domaine du péché. Un chrétien peut-il pécher? La réponse est oui. Cela signifie que le Saint-Esprit doit alors vivre dans un corps qui a commis un péché. Peux-tu imaginer que le Saint-Esprit habite effectivement dans le chrétien au moment précis où ce dernier est en train de mentir, de commettre la gloutonnerie, l'immoralité, etc.? C'est horrible d'y penser, le Saint-Esprit demeurant dans un corps de péché. Ceci paraît être une terrible contradiction, néanmoins cela est réel dans l'expérience chrétienne. Même si l'immoralité n'a été commise qu'en pensée, cela signifie qu'au moment où l'âme du chrétien commettait ce péché affreux, le Saint-Esprit demeurait dans son esprit. Cette triste contradiction est pourtant réelle, aussi réelle que celle qui consiste à voir le Saint-Esprit demeurer dans une personne qui, pendant quelque temps, a encore un ou plusieurs démons. Même si une personne était totalement délivrée à sa conversion, qu'adviendrait-il s'il lui arrivait de rétrograder? Dans sa condition de régression, elle peut ouvrir la porte pour que des démons viennent à nouveau habiter en elle? Je n'ai jamais vu des gens exercer un ministère de délivrance envers des rétrogrades. Généralement, on se contente juste de prier pour eux. Cela signifie que si un démon quitte une personne à sa conversion, le même démon peut, lorsque cette personne a rétrogradé, revenir avec cet autre démon plus méchant, rendant d'autant plus nécessaire un ministère de délivrance. Le Seigneur Jésus dit: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, la dernière condition de cet homme est pire que la première, Luc 11, 24-26. Oui, une personne peut être complètement délivrée au début de sa vie chrétienne, mais elle a besoin de continuer à marcher avec le Seigneur afin que les démons qui étaient en elle au début ne reviennent pas plus tard, accompagnés de plusieurs autres, plus méchants qu'eux. Le Seigneur Jésus trouva nécessaire de commander que les démons quittent quelqu'un et ne reviennent plus jamais. De nos jours, soit la délivrance est totalement absente dans beaucoup de parties du corps de Christ, soit ceux qui la pratiquent oublient que les démons peuvent revenir. Jésus a dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus, Marc 9, 25. Nous savons, d'après l'expérience que nous avons acquise ces 10 dernières années dans le ministère de délivrance, que les démons reviennent. Pendant plusieurs années, je ne savais pas qu'il fallait commander aux démons de ne plus jamais revenir dans une personne. Nous nous sommes rendus compte que si des personnes étaient délivrées et retournaient ensuite pratiquer des œuvres graves des ténèbres, telles que l'immoralité sexuelle, la magie ou la sorcellerie, le plus souvent les démons revenaient et le ministère de délivrance était plus difficile qu'avant. Nous avons constaté la même chose avec la guérison. Parfois la maladie reviens et la condition de la personne est pire qu'avant. Jésus dit à l'un de ceux qui l'avaient guéri, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jean 5, 14. D'après l'expérience que nous avons chèrement acquise en priant pour la délivrance de certaines personnes, nous savons que le ministère de délivrance peut durer plusieurs jours, semaines ou mois. Au départ, la personne se repent et reçoit le Seigneur. Cependant, le ministère qu'on doit lui rendre n'est pas achevé et elle n'est que partiellement délivrée. Elle est déjà chrétienne puisqu'elle a reçu le Seigneur de gloire. Mais, entre le moment de sa délivrance partielle et celui de sa délivrance totale, elle est une chrétienne qui a des démons résidant en elle. Comme nous le voyons clairement dans le ministère de Jésus, certaines maladies étaient la manifestation de la présence des démons. La personne était guérie dès que les démons étaient chassés.